de Stéphanie et Marina de l'équipe des relations investisseurs. Nous commencerons cette conférence par quelques commentaires sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre et les perspectives, puis nous serons heureux de répondre à vos questions. Commençons en slide 2. Nous sommes très contents encore une fois de la performance de nos ventes sur ce trimestre, qui sont stables sur un an de données publiées à 1,849 milliards. Cette année, les soldes d'été ont démarré une semaine plus tôt que l'année dernière, pesant pour environ moins 60 points de base sur les ventes du troisième trimestre. Hors cet impact calendaire, les ventes du T3 seraient en croissance de plus 0,3%. Si l'on compare par rapport au niveau pré-crise, les ventes du trimestre restent encore nettement supérieures à celles du troisième trimestre 2019, de plus 7,2% à périmètre comparable, portées par une hausse du panier moyen. La bonne performance des magasins explique cette solide résistance, alors que le chiffre d'affaires du e-commerce continue de se normaliser. Ce dernier reste néanmoins à un niveau élevé et représente 21% de nos ventes totales du trimestre, en hausse de 3 points par rapport au niveau pré-crise. La complémentarité de nos magasins et de nos plateformes digitales se démontre une fois de plus ce trimestre, avec une part du click and collect dans les ventes en ligne de 47%, très proche du taux normatif de 50% que nous avons toujours observé. Enfin, un mot sur la tendance d'évolution du taux de marge brute, qui est stable ce trimestre par rapport au troisième trimestre 2021, en excluant l'impact technique dilutif du développement en franchise, qui pèse pour environ moins 20 points de base. Le mix produits et services du trimestre a été impacté par la solide performance de la téléphonie, avec la sortie de l'iPhone 14 en septembre, et la normalisation des ventes de gros électroménagers, compensée néanmoins par la bonne dynamique des services et du livre. Au global, sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe affiche toujours un taux de marge brute en croissance à plus 70 points de base, soit plus 90 points de base hors effet de la franchise. Passons en slide 3. Et regardons maintenant les performances de vente par région et par catégorie de produits au cours du trimestre. La zone France-Suisse enregistre une solide résistance de ses ventes à moins 1,8% en données comparables par rapport à 2021, portée par une bonne performance des magasins. Au cours du troisième trimestre, le groupe a ouvert 8 magasins en France, 3 Fnac et 5 Darty, tous en format franchise. Par ailleurs, la performance de la zone est portée par la bonne dynamique du petit électroménager et du livre, tirée par le succès de la rentrée littéraire et l'impact positif du pass culture. Les services ont continué à afficher une bonne croissance, portée par la conquête de nouveaux abonnés d'Artimax. La zone Belgique et Luxembourg affichent une stabilité de ses ventes en données comparables au cours du trimestre, malgré une inflation particulièrement forte et une pression concurrentielle soutenue. Enfin, la péninsule ibérique enregistre des ventes en croissance au cours du trimestre à plus 2,5% de données comparables, tirées principalement par le Portugal, l'Espagne évoluant davantage dans un contexte de forte tension concurrentielle. Cependant, grâce à une solide exécution commerciale et à une reprise progressive du trafic, les magasins affichent une bonne croissance sur la zone, permettant de plus que compenser la normalisation de l'évolution des ventes digitales observée dans les deux pays. Analysons maintenant les performances par catégorie de produits. Le marché de l'électroménager affiche un retrait des volumes vendus depuis le début de l'année, particulièrement pour les produits d'entrée de gamme, alors que le prix moyen de la catégorie progresse. Dans un environnement concurrentiel fort et après 2 années de croissance, les ventes de gros électroménagers continuent de se normaliser, alors que celles du petit électroménager sont stables. Toutefois, les ventes de cette catégorie restent supérieures au niveau pré-crise de 2019. Les produits techniques affichent une bonne résistance ce trimestre, portée par la solide croissance enregistrée en téléphonie avec la sortie de l'iPhone 14, qui a suscité un niveau de précommande élevé. De plus, la photo et le son ont également enregistré de bonnes croissances, compensant en partie le ralentissement observé en informatique et en télévision, en prévision de la Coupe du monde de foot qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain. Les produits éditoriaux continuent d'afficher de belles dynamiques des segments audio, tirés par l'engouement pour les vinyles, vidéos et livres, notamment en lien avec le succès de la rentrée littéraire et à l'impact positif du pass culture, qui a été étendu depuis la rentrée aux élèves à partir de la sixième. Depuis son lancement, le pass culture compte déjà plus de 2 millions de jeunes bénéficiaires. À l'inverse, Le gaming continue d'être pénalisé par le faible niveau de disponibilité de la PS5 dans le marché depuis son lancement fin 2020. Enfin, au cours du trimestre, les services bénéficient de la poursuite de la croissance du nombre d'abonnés à Dartimax, de la reprise de la billetterie et de la bonne dynamique du crédit. Passons en slide 4. En tant que leader de la distribution spécialisée sur ces marchés, Fnac Darty s'attache à répondre à l'ensemble des attentes des consommateurs, tout en poursuivant les ambitions de son plan stratégique Everyday. Grâce à une solide exécution commerciale, le groupe œuvre au quotidien avec ses fournisseurs de long terme pour offrir une bonne disponibilité et une large gamme de produits à des prix adaptés aux différents besoins de tous. Ainsi, afin de satisfaire les consommateurs friands des dernières nouveautés, Fnac Darty s'appuie sur sa relation de confiance avec ses fournisseurs pour offrir des produits toujours plus innovants et haut de gamme en exclusivité. À titre d'exemple, sa position de premier revendeur de produits Apple en France a permis au groupe d'avoir une bonne disponibilité du dernier iPhone 14 et d'enregistrer un niveau de précommande significatif dès son lancement en septembre dernier. Le groupe a également su répondre à l'appétence forte des consommateurs pour les smartphones de nouvelle génération pliables en proposant les derniers Samsung Galaxy Z. De plus, Fnac Darty s'appuie sur son parc de magasins pour réaliser des animations commerciales ciblées. Ainsi, afin d'accompagner des temps forts importants pour les clients, comme la rentrée des classes, le groupe a mis en avant des packs de produits informatiques pour les étudiants et les télétravailleurs. Le groupe offre également une animation commerciale forte lors des sorties de nouveautés, comme le prix du roman Fnac 2022 pendant la rentrée littéraire, ou encore le Fnac Gaming Tour, qui accompagne la sortie de nouveaux jeux vidéo tels que FIFA 2023. Enfin, Fnac Darty a adapté sa politique commerciale ce trimestre pour répondre aux besoins des consommateurs dont le pouvoir d'achat est sensiblement impacté par l'inflation, en mettant en avant des produits du quotidien labellisés Petit Prix. Le groupe a également poursuivi ses initiatives pour offrir une alternative à l'achat du neuf au travers de ses actions autour de la réparation et de son offre de seconde vie, en particulier pour les produits techniques et électroménagers. Le groupe continue également d'offrir un choix éclairé à ses clients en leur mettant à disposition les informations dont ils disposent en matière de fiabilité et réparabilité des produits. À ce titre, la cinquième édition du baromètre du SAV a été publiée en septembre dernier. Cet outil d'information de référence pour le grand public intègre dorénavant, en plus des critères de fiabilité et de réparabilité, le prix des pièces détachées. Il permet ainsi aux consommateurs de comparer toutes les catégories de produits et les marques entre elles, afin de s'orienter vers des produits plus durables. La poursuite du déploiement de Dartimax, désormais également disponible dans les magasins Fnac, permet de promouvoir la réparation plutôt que le remplacement systématique. Ce sont ainsi déjà plus de 1,9 million de produits qui ont été réparés depuis le début de l'année. Et à ce titre, afin d'accompagner la montée en puissance de Dartimax et le recrutement de 500 techniciens supplémentaires d'ici 2025, le groupe va ouvrir d'ici quelques jours son propre centre de formation d'apprentis dédié au métier de la réparation. À l'issue de leur formation, les apprenants obtiendront un diplôme de technicien service de l'électroménager connecté et se verront tous proposer un emploi en CDI par le groupe. Enfin, nous sommes très fiers de voir nos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale une nouvelle fois valorisés par Moody's ESG Solutions. Le groupe intègre pour la première fois la meilleure catégorie, avancée A1+, avec un score de 61 sur 100, en progression de plus 7 points sur un an, soit plus 17 points sur 3 ans. L'ensemble des composantes E, S et G ont progressé cette année et de manière plus marquée pour la partie sociale, avec 9 points gagnés sur un an. Fnac Darty figure ainsi dans le top 5 européen des sociétés du secteur de la distribution spécialisée et dans le top 5% mondial. Ces reconnaissances démontrent que les enjeux environnementaux, sociaux, éthiques et de gouvernance sont perçus comme pleinement intégrés au modèle de Fnac Darty et en ligne avec les ambitions de son plan Everyday. Je terminerai avec quelques mots sur la situation à date et les perspectives du groupe. En slide 5. Nous sommes très satisfaits de surperformer encore nos marchés à fin août, dans un contexte marqué par un niveau d'inflation élevé et des tensions sur le pouvoir d'achat. Cette performance devrait à nouveau être confirmée demain, lors de la publication des données pour le mois de septembre par la Banque de France. Cette solide dynamique reflète notamment le succès de la rentrée des classes, portée par une bonne gestion de nos approvisionnements qui restent de très bonne qualité, avec un taux de rotation stable sur un an. Par conséquent, nous demeurons confiants dans la réussite des événements de fin d'année, particulièrement clés pour nous, sous réserve que l'évolution de l'environnement social actuel en France ne perturbe pas significativement nos activités. Dans ce contexte, le groupe reste focalisé tout d'abord sur une solide exécution commerciale, afin d'assurer le succès des grands rendez-vous commerciaux, Black Friday et Noël, qui s'accompagneront pour la première fois au quatrième trimestre de la Coupe du Monde de football. Et à ce titre, nous disposons d'un bon niveau de disponibilité des produits dans chacune des catégories particulièrement plébiscitées lors de ces temps forts de fin d'année, notamment les télévisions, pour lesquelles nous sommes leaders des ventes en France. Deuxièmement, nous veillerons à optimiser notre taux de marge brute, malgré un mix produit traditionnellement moins favorable sur la seconde partie de l'année. Comme nous l'avons démontré depuis 9 mois, nous continuerons à répercuter les hausses de prix, en particulier sur les catégories de produits premium, tout en proposant une large offre de produits et services. Enfin, nous avons renforcé notre discipline de coût avec la poursuite des plans de performance pour compenser au mieux l'impact de l'inflation qui devrait être plus élevée au second semestre. À ce titre, la hausse des coûts salariaux devrait être plus marquée au second semestre, avec l'impact à plein des augmentations annuelles, contre 4 mois au premier semestre, ou encore le nouvel accord de branche, entré en vigueur au 1er octobre dernier en France, revalorisant les salaires pour environ 2 tiers des collaborateurs du groupe, avec un impact estimé à quelques millions d'euros. Par ailleurs, comme annoncé en juillet dernier, nous visons toujours une enveloppe d'investissement opérationnel pour 2022 qui devrait se situer à un niveau légèrement inférieur à 140 millions d'euros. Enfin, le groupe poursuit l'exécution de son plan stratégique Everyday en vue d'atteindre ses objectifs de cash flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023 et d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025. Je vous remercie de votre attention et nous sommes maintenant tous les trois prêts à répondre à vos questions.
Pour poser une question ou faire un commentaire sur la conférence d'aujourd'hui, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. Encore une fois, pour poser une question, appuyez sur étoile 1. Et on va prendre la première question de Marie-Line Fort de Société Générale.
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien?
Très bien, Marie, merci.
Oui, bonsoir. J'avais tout d'abord une question sur le chiffre d'affaires T3. J'ai un peu de divergence en calcul des variations de chiffre d'affaires. Est-ce que ce serait possible de redonner le T3 21? Peut-être que vous avez corrigé les données passées. Et dans ces cas-là, on aimerait bien les avoir. C'est une toute petite question de chiffres pour démarrer. La deuxième question, ça avait trait aux services. Je voulais savoir comment avaient évolué les services sur le troisième trimestre, ainsi que nature et découverte. Est-ce que le retour des clients en magasin vous permet de voir une meilleure traction dans les magasins nature et découverte? Merci beaucoup.
Première, Stéphanie.
Bonsoir Marilyn, c'est Stéphanie. Donc sur le chiffre d'affaires du T3 2021, on est à 1,854 millions d'euros. Il n'y a pas de changement sur le chiffre d'affaires T3 2021. En tout cas, on n'a pas de changement. Ce qu'on a signalé là dans les variations que Jean-Brieuc a indiquées, c'est notamment il y a un effet évidemment like for like et puis un effet solde qui est particulier puisqu'on a un décalage. Les soldes ont démarré cette année une semaine plus tôt qu'elles n'ont démarré l'année dernière. Et donc, on vous a donné et communiqué l'impact de ce décalage dans le temps qui est de moins 60 bips. Donc, dans les variations, c'est peut-être ce qui a perturbé, mais en tout cas, il n'y a rien de, pas de changement dans le T3 2021, le chiffre d'affaires T3 2021.
Et sur la partie service, le service se porte bien sur le T3. Ils sont tirés on va dire, le développement du parc d'abonnés d'Artimax. On est désolé, on ne peut pas vous donner le nombre d'adhérents, on le fera aux annuels. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on en a plus qu'au 1er janvier. Et ça se passe plutôt bien. La billetterie est également bien orientée. Si vous vous rappelez bien, on a eu un premier trimestre qui était un peu impacté avec un retour en salle qui avait été un peu compliqué sur janvier-février. Mais depuis, la dynamique se poursuit et ça se passe plutôt bien. Donc une dynamique service qui est bien orientée depuis le début de l'année. Nature et découverte, on revoit des clients en magasin et on a un chiffre d'affaires qui est en progression par rapport à l'année dernière, mais il faut garder en tête que l'année dernière, la plupart des magasins étaient fermés et avaient, on va dire, un taux de fermeture qui était largement supérieur à la moyenne du groupe. puisqu'ils sont essentiellement situés dans les plus grands centres commerciaux et ne sont pas jugés comme une activité essentielle. Voilà, donc on a un retour du trafic en magasin, mais qui reste inférieur à ce qu'on a pu connaître post-crise et aussi pré-crise. Donc ça met un peu plus de temps que ce qu'on aurait pu attendre.
Merci.
Nous n'avons plus de questions dans la file d'attente. Pour le rappel, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. Encore une fois, c'est étoile 1 si vous avez des questions. On n'a pas de questions pour le moment. Encore une fois, c'est étoile 1 si vous avez des questions. Et on va prendre une autre question de Marilyn Ford de Société Générale.
Oui, je poursuis. Donc, je voulais que vous reveniez sur le taux de marge brute. Donc, on est sur une croissance moindre aux 9 mois versus S1. J'ai noté que vous étiez en baisse de 100 points de base sur le T3. C'est ce qu'il fallait bien comprendre?
Non, on n'est pas en baisse de 100 points de base. On a une marge qui est flat hors franchise sur le T3. Et la franchise, c'est moins 20 points de base. Donc, on peut en déduire facilement
qu'on est
en baisse
de 20 points de base.
Voilà, c'est 20, 2-0. Donc, très très légère baisse et une marge qui est stable sur le trimestre. Sachant qu'au premier semestre, on avait effectivement un mix de marge qui était plus favorable parce qu'on avait un retour par rapport à 2021, puisqu'on avait un retour en magasin qui était fermé en 2021. Donc, on a un effet mix canal qui nous a été plus favorable au premier semestre qu'il ne l'est au troisième trimestre. Donc, on a des choses complètement normales.
Et qu'il ne sera au T4, c'est ça ?
Au T4, on est complètement comparable avec l'an dernier. On n'a absolument aucun effet de fermeture.
On avait la billetterie aussi qui jouait, puisque au S1, on avait aussi un effet billetterie qui jouait quasiment à plein, puisqu'on se comparait à un S1 2021 qui était quasiment sans billetterie, ou en tout cas avec des restrictions assez fortes sur la partie billetterie. Et sur le S2, on se compare presque à justement un S2 l'année dernière qui était redevenu normal.
Et autre question, comment vous voyez la fin de l'année, notamment sur donc les opérations commerciales, donc vous allez bénéficier de la Coupe du Monde de football. Est-ce que vous voyez des innovations ou autre chose à signaler qui pourrait soutenir l'activité?
En termes de line-up, tu veux dire, on a pas un line-up particulier, on a l'iPhone 14 qui a été lancé fin septembre, et donc on va avoir beaucoup de ventes probablement sur le quatrième trimestre. Ça c'est important. Et ensuite, c'est la conjoncture de Noël, Black Friday, plus cette année, un événement qu'on n'avait pas l'année dernière, qu'on n'a jamais eu en fait, qui est une Coupe du Monde au Q4. Donc il va animer probablement tout le trimestre.
D'accord. Vous pensez que ça peut avoir un impact identique, parce que apparemment il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas l'intention de la suivre, donc vous êtes confiant là-dessus?
Écoute, on verra ce que ça donne. C'est un peu tôt pour prédire le comportement des consommateurs. Nous, ce qu'on voit historiquement, c'est qu'on a toujours... Les Coupes du Monde se traduisent toujours par une augmentation des ventes de télé dans les 15 jours, 3 semaines qui précèdent la Coupe du Monde, donc probablement au début du mois de novembre. Je serais surpris que les passionnés de foot décident de ne pas la suivre, de façon massive en tout cas.
Merci bien.
Alors, nous n'avons plus de questions dans la file d'attente. Pour le rappel, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. Et on a une question d'attente de Emmanuel Vigneron de HSBC.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui, très bien, Emmanuel.
Oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous pourriez rappeler les différences, grosso modo, de taux de marge brute entre les produits techniques, éditoriaux et électroménagers, s'il vous plaît?
Alors, oui, on ne donne pas les taux de marge brute précis. Par contre, on peut les classer. On peut les classer. Donc, on a évidemment les services qui sont un gros pourvoyeur de marge brute par définition. Ça, c'est assez normal. Ensuite, dans l'ordre, on a le PE, le livre, qui a les taux de marge brute qui sont élevés, suivi par le gros électroménager. Ça, c'est les produits qui génèrent le plus de marge brute chez nous. Et ensuite, la partie produits techniques, qui a des taux de marge brute plutôt plus faibles, en tant que telle, en tant que catégorie, mais auxquels on attache beaucoup de services. Globalement, c'est comme ça qu'on peut classer nos activités, avec des taux de marge brute qui peuvent varier avec des taux au-dessus de 40% pour certaines catégories et plutôt entre 10 et 20% pour d'autres, si on prend les familles, hein, pas les catégories. Donc
D'accord.
il y a une dispersion assez élevée, mais bien garder en tête que la partie produits techniques, qui sont la famille la moins margée, est celle avec laquelle on attache le plus de services.
D'accord.
Alors, nous n'avons plus de questions dans la file d'attente. Pour le dernier appel, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. Il n'y a plus de questions. Ah, pardon, on vient d'avoir une nouvelle question de Fabien Caron de Kepler Cheuvreux.
Oui, bonsoir. J'ai eu des problèmes techniques, c'est pour ça.
Oui.
Mais me voici. C'est plutôt une
C'est bon.
question qualitative concernant votre offre sur les produits quotidiens, petit prix, et aussi les produits seconde main. Est-ce que vous avez une façon un peu de nous aider à les quantifier, que ce soit en volume ou en nombre de références par rapport et à voir en fait quelle est la progression?
Oui, bonsoir Fabienne, c'est Stéphanie. Donc sur cette partie-là, ce qu'on voulait démontrer, c'est que dans un contexte justement où les attentes des consommateurs sont différentes, en fait, on propose à la fois des produits très innovants pour répondre à des consommateurs qui sont justement très friands d'innovation, entre guillemets, quel que soit le prix. Et en parallèle, on a ciblé certains produits du quotidien, c'est-à-dire vraiment des produits que certaines personnes justement ont besoin dans leur quotidien. On a parlé notamment des packs informatiques pour les étudiants et pour les élèves au moment de la rentrée des classes. Donc, c'était des bundles, par exemple, ordinateur et imprimante. On ne donnera pas de quantité précise qui ont été vendues, mais très clairement, ça permet d'adresser ce type de demande dans un contexte où il peut y avoir des gens qui sont appétents là-dedans, qui ont besoin de ce genre de produits. Ça concerne plutôt des produits qui ont été entrée de gamme pour la partie petit prix, sachant que nous, on a quand même notre part des ventes sur les produits premium qui reste quand même prépondérante. Mais néanmoins, on veut adresser, si tu veux, l'ensemble des attentes des consommateurs.
Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que tu peux dire par exemple combien de références c'est combien de références qui sont produits petit prix et si on met les produits seconde main, combien de produits? Sans parler des ventes, mais parler de l'offre.
Écoute, moi, je n'ai pas le nombre de références en tête. En revanche, on en a dans toutes les catégories.
D'accord.
On a une réponse d'unité de besoin d'à peu près toutes les catégories.
Et sur les produits
Après, je n'ai pas le nombre
seconde
de
main,
références en tête.
vous sentez un mouvement aussi positif sur les produits de seconde main, étant donné le climat ou pas tant que ça?
Oui, alors sur des produits seconde main ou de toute façon une appétence également sur des produits même de gros électroménagers, mais qui te permettent de faire des économies d'énergie ou de consommation d'eau. Donc c'est des choses qui répondent aussi aux besoins des consommateurs. Et sur les produits seconde main, oui, clairement, l'attente est forte et donc on répond à ces besoins, notamment sur la partie technique et électroménager. C'est des sujets qui montent assez rapidement. Après, pour l'instant, ça reste, voilà, la prépondérance reste les ventes de produits plutôt premium. Mais c'est des choses, évidemment, sur lesquelles on est largement positionné et on se renforce là-dessus.
D'accord, merci.
Alors, pour le rappel, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. Et on va prendre la question de Clément Genelot de Bryan, Garnier et Compagnie.
Clément? On est connecté, nous?
Oui. Clément, tu nous entends?
ne pas décoder.
Vous nous entendez?
Encore une fois, pour poser une question, composez étoile 1.
Et, ou pas
bon, okay. Vous nous entendez?
Alors, on va prendre la question de Fabien Caron de Kepler Chevreux.
Donc, je voulais dire d'abord, oui, on vous entend. On ne peut pas répondre okay. Comme nous sont. On vous entend très bien, il n'y a pas de souci. Je pense que Clément a dû avoir un souci technique. Après, j'ai juste une question aussi un peu de détail, mais est-ce que vous êtes en position de comparer la disponibilité de la PS5 chez vous par rapport à vos concurrents ou de l'iPhone 14, par exemple, par rapport à vos concurrents?
Alors, PS5, je pense que personne n'en a vraiment beaucoup. Et donc, quand on en a, ça, c'est vendu dans la journée ou immédiatement.
D'accord.
Donc je pense qu'on est plutôt pas mal servi. Sur l'iPhone, c'est compliqué de savoir globalement, ce qu'on entend, nous, et ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait quand même été vraiment bien servi sur l'iPhone 14.
D'accord. Ok, merci.
Et encore une fois, pour poser une question, composez étoile 1. Alors, on va prendre la question de Marilyn Ford de Société Générale. Marilyn, c'est à vous.
Oui, pardon, bonsoir. J'ai une toute petite dernière question sur les produits plutôt premium versus les produits entrée de gamme. GFK s'attend sur la fin de l'année à ce qu'il y ait une baisse de ces catégories, donc premium au profit de l'entrée de gamme. J'ai plutôt l'impression que vous avez l'air de dire que pour ce qui vous concerne, hormis l'offre que vous avez mis en avant, vous voyez toujours une montée en gamme ou alors un maintien de la demande pour des produits premium, si vous pouvez confirmer, parce que c'est un peu là où vous avez les plus fortes parts de marché.
Écoute, sur la partie produits techniques, on voit toujours une part des produits premium qui reste extrêmement forte, et on l'a vu sur l'iPhone 14, hein, où on a un prix de vente moyen qui est à 1 200 € hors taxe, donc 1 400 € TTC. On peut dire que c'est quand même du premium. Donc ça, on le voit très nettement. Sur le gros électroménager, on a une stabilisation de la part du produit premium par rapport à ce qu'on a pu connaître, avec des clients qui effectivement suivent l'augmentation des prix de vente moyens et vont vers des produits plus durables. Donc plutôt un caractère d'investissement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à date. La fin de l'année, c'est dur de prévoir, hein. Mais à date, en tout cas, c'est ce que nous, on voit.
Et sur le petit électroménager, où il peut y avoir des produits aussi assez premium, comment vous voyez les choses?
Les ventes sont stables. Les ventes sont stables et on note pas de descente en gamme de nos consommateurs.
Merci bien.
Et encore une fois, pour poser une question, composez étoile 1. Et on va prendre la question de Clément Genot de Brian Garnier et compagnie.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. J'aurais deux questions, en fait. La première est plutôt sur la marge brute. Effectivement, on a vu un vrai ralentissement qui doit sûrement être dû essentiellement au fait que le rattrapage de la billetterie est fait. Néanmoins, est-ce que vous pensez quand même que la tendance vue sur la marge brute au T3, elle est extrapolable au T4, T4 ou ça va être un peu plus dur en se disant que plus on va avancer dans l'année et plus le client peut être amené quand même à faire quelques arbitrages où là peut-être qu'il y aura des pressions sur les stocks avec plus de promotion globalement. Et mon deuxième point, c'est très current trading. Je ne cherche pas forcément un chiffre, mais plutôt un commentaire. Est-ce que les grèves à l'heure actuelle en France et du coup la pénurie de carburant ont en fait un impact sur le trafic en magasin ou non? Merci.
Ok, donc sur ton premier point, sur la marge brute, ce n'est pas un ralentissement, c'est une normalisation. C'est-à-dire qu'on passe sur un troisième trimestre, on va avoir un quatrième trimestre, qui vont être quasiment équivalents en termes de mix produits et de mix d'offres, enfin de disponibilité en tout cas des magasins, du web ou de la billetterie qui vont être similaires à ce qu'on avait l'an dernier. Donc on est plutôt dans une phase de normalisation de la marge brute. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Sur le quatrième trimestre, on ne va pas extrapoler, de toute façon. On a un périmètre qui va être le même que celui de l'an dernier. On n'a pas de magasin fermé, la billetterie qui joue à plein. Les promotions, bah c'est un quatrième trimestre de toute façon qui est déjà un quatrième trimestre qui est très promotionné. On a une Coupe du Monde de foot. On a Black Friday qui pèse lourd en termes de poids de chiffre d'affaires sur le Q4. Donc on verra. On verra. Je pense que les acteurs aujourd'hui, en tout cas dans la distribution, sont probablement plus à la recherche de préservation de leur marge et de passer au client final les hausses de coûts plutôt que se battre sur une guerre des prix qui de toute façon sera stérile pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle on est. Je ne vois pas ce qui pourra changer, même si, comme je le dis, on ne va pas prévoir ce qui se passe au Q4. Sur le current trading, écoute, globalement, on ne va pas donner de chiffre d'affaires, mais les mouvements, la conséquence des pénuries de carburant n'impactent pas forcément le groupe à date. Ça ne dure pas depuis très longtemps non plus. Il ne faut pas non plus oublier que le mouvement touche beaucoup plus la région parisienne que la province. Donc, à date, nous, on ne voit pas d'impact significatif à ce stade sur nos ventes. Évidemment, si ça dure plus longtemps, il faudra qu'on regarde ce que ça donne, mais à date, on n'a pas d'impact très significatif sur nos ventes.
D'accord. Ok. Très clair. Merci.
Et on va prendre une dernière question de Fabien Caron de Kepler Cheuvreux.
Fabienne?
Pardon, oui. Donc je voulais savoir s'il y a des différences de comportement d'achat du consommateur dans vos différentes zones géographiques ou s'ils se comportent tous de la même façon. En gardant en mémoire que le consommateur français est quand même plus protégé que les autres dans votre périmètre. Et si vous voyez en fait une différence ou pas du tout?
Alors, le comportement, effectivement, la France est le pays en Europe qui a un taux d'inflation le plus faible et dans lequel les consommateurs sont le mieux protégés, notamment des hausses du coût d'énergie. Donc ça, on a un comportement qui se passe plutôt bien. La Belgique, il y a un taux d'inflation qui est extrêmement élevé, à plus de 10%, mais on a également eu des hausses de salaire qu'on appelle l'indexation en Belgique, qui sont des hausses de salaire obligatoires, qui doivent approcher les 12% depuis le début d'année. On doit être à 6 fois 2%. Donc on a un pouvoir d'achat qui suit l'inflation en Belgique. Et on voit que le chiffre d'affaires, globalement, se comporte plutôt pas trop trop mal en Belgique. L'Espagne, quand on regarde l'Espagne, c'est un marché qui a toujours été très concurrentiel, avec une inflation élevée, un taux d'épargne un peu plus faible que la moyenne de l'Europe, et une zone et beaucoup de concurrence. Donc là, on est sur des chiffres d'affaires, des comportements de consommateurs qui sont un peu plus, veut dire, réticents à la consommation, même si le pays s'en sort pas si mal. Et au Portugal, ça se passe extrêmement bien. On a des croissances de chiffres d'affaires fortes, principalement tirées par les produits éditoriaux. Donc voilà, c'est assez. Il y a des comportements un peu hétérogènes qui dépendent de la situation économique des pays, mais globalement, on ne voit pas de pays dans lequel ce soit extrêmement difficile aujourd'hui.
Et donc, pas de pays hors France où on voit un trading down ou une baisse en gamme plus marquée?
Non, pas vraiment, non.
D'accord,
Non, non.
merci beaucoup.
Alors, il n'y a plus de questions. Je vais donc redonner la parole à votre hôte.
C'est ça? Ok, parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention et de votre présence et nous vous souhaitons une très bonne soirée. À très bientôt.
Merci d'avoir participé à cette conférence aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher.